Toujours à l'écoute du réseau FM+, le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes, ou bien le 103.1 Radio Alliance Plus sur l'agglomération nîmoise, toujours en compagnie de Michel Théron, les deux moitiés du chemin. C'est la deuxième donc partie de notre émission sur le rapport de la sexualité, et puis voilà.
Voilà, une femme une avec femme, toi, et pas contre toi ou face à toi, mais avec toi. Je pense, vous voyez, Redouane, au Cantique des Cantiques, lorsque l'amant dit à sa bien-aimée, lève-toi et va vers toi-même, mon ami, ma belle, et viens. Alors viens vers moi, mais aussi va vers toi-même. En hébreu, vous avez l'air les rats, hein. C'est-à-dire va pour toi, et aussi, donc elle est révélée par les caresses et le regard de l'amant qui la réchauffe en quelque sorte, et révélée jusque dans l'amour physique, lorsqu'une femme est révélée à elle-même. Je suis enfin devenue une femme, dit la chanteuse Nicole Croisille, justement par ta rencontre. Et elle lui dit, tu étais gentille, puis tu me regardais comme il fallait. J'avais parlé de ce regard qui réchauffe, ce qu'on pourrait appeler un pygmalionisme. Alors pourquoi? Parce que Pygmalion, par ses caresses, a redonné la vie à la statue qu'il avait sculptée, vous voyez, Galatée. Hein. Donc, nous pouvons, en quelque sorte, faire en sorte que l'autre, hein, soit révélé à lui-même, voilà. Hein, et finalement, c'est très positif. Ça. C'est pour ça, les deux moitiés du chemin, hein, bon, là, ils y sont arrivés. Hein. Le ler les rats en hébreu, c'est bien, vise bien le bien du destinataire. Lève-toi, mon ami Babel. Va vers toi-même, hein, va vers toi-même, et ensuite viens vers moi. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il lui dit de quitter la terre où il se trouve. Va pour toi vers la terre que je te donnerai. L'air, les rats, vous voyez, hein, va pour toi. C'est pas du tout un intensif, hein, mais cela vise le bien du destinataire. Je crois que Chouraki, dans sa traduction de la Bible, le dit bien en note, vous voyez. Hein. Donc, c'est pas du tout de l'égocentrisme, pas du tout, mais c'est le fait que le moi, justement, par la rencontre, peut être porté à son plus haut point d'incandescence, peut être réuni à lui-même, à son désir le plus profond. Voilà. Alors, de toute façon, il me semble qu'il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Alors, vous connaissez bien sûr, Redouane, l'idéogramme du Tao, hein, qui représente un cercle partagé en deux par un S. Hein. Vous avez une partie blanche et une partie noire, et dans la partie noire, vous avez un petit cercle blanc, et dans la partie blanche, vous avez un petit cercle noir. Hein. Bon, donc, il y a... Alors, ce sont les deux principes dans le taoïsme. Vous avez le principe yang, Y-A-N-G, qui est le principe masculin, et vous avez le principe yin, Y-I-N, qui est le principe féminin. Donc, il y a du yang masculin dans le yin féminin, et réciproquement, vous voyez. Et on peut élargir, on peut dire par exemple que le jour qui est masculin est en germe dans la nuit qui est féminine. L'action qui est plutôt masculine est en germe dans le repos qui est plutôt féminin. Ce sont des rythmes qui se succèdent, chacun des deux étant contenu potentiellement dans l'autre. Et vous voyez, la Chine est un pays essentiellement agricole. Alors, y avez-vous été, Redouane? Vous rêvez d'y aller, peut-être?
Oui, voilà. Pas encore.
Pas encore, voilà.
Ça va venir.
Donc, quand vous y aurez été, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un pays agricole, un pays de paysans. Et donc, les paysans attachent beaucoup d'importance au rythme de la nature. Hein, le soleil, la pluie, etc. Hein. Donc, le taoïsme est né dans ce terreau-là. Hein. Donc, ces rythmes se succèdent, et chacun des deux est contenu potentiellement dans l'autre. Hein. Et c'est à la fois une alternance physique, après la pluie vient le beau temps, et puis ça continue, etc. Et aussi une coexistence métaphysique, comme il se voit dans l'idéogramme du Tao. Et il importe donc, pour revenir à ma problématique, que chaque sexe, masculin et féminin, développe sa partie qui est plus complémentaire qu'opposée, vous voyez. Et c'est ce que j'entends par faire la moitié du chemin. Alors là, je ne résiste pas à reproduire pour les auditeurs la sentence numéro 28 du Tao Te King, où le sage est invité à unir en lui le masculin et le féminin. Alors bien sûr, Lao Tzu ignorait totalement le féminisme et l'actuelle théorie du genre, queer, etc. Hein. Et pour lui, les deux pôles existaient bel et bien, à la fois psychologiquement et philosophiquement. Mais ce qu'il dit dans ce logion, oui, c'est une sentence, un logion, une petite parole, me semble ne pouvoir jamais être assez médité, hein, et chacun peut en faire son mantra personnel, sa règle de vie. Alors je vous le lis. Connais le masculin, adhère au féminin, sois le ravin du monde. Quiconque est le ravin du monde, la vertu constante ne le quitte pas. Il retourne à l'état d'enfance, connaît le blanc, adhère au noir, soit la norme du monde. Quiconque est la norme du monde, la vertu constante, ne s'altère pas en lui. Il retourne à l'état de ce qui n'a pas de limite, connaît la gloire, adhère à l'outrage, soit la vallée du monde. Quiconque est la vallée du monde, la vertu constante est suffisante en lui. Il retourne à l'état de bois brut. Le bloc de bois que l'on débite forme des ustensiles. Le saint qui s'en sert devient le chef des fonctionnaires. C'est pourquoi le grand maître ne blesse rien. Alors il faut le lire longuement, le méditer, hein. Mais vous avez bien l'opposition entre masculin et féminin, mais il faut connaître le masculin, comme il le dit, mais adhérer au féminin. Et alors le ravin, ou bien la vallée, etc., tout cela, et c'est plutôt féminin. La montagne, au contraire, sera masculine. La montagne se dresse, hein, et voilà. Mais Lao Tzu dit très bien que c'est la rivière qui va gagner au fond d'analyse, hein, du fait de l'érosion, la montagne va s'affaisser, forcément, hein, et donc Lao Tzu dit quelque part dans le Tao Te Ching aussi, l'eau qui est la chose la plus molle triomphe du rocher qui est la chose la plus dure, et ça c'est vrai, hein, dans le combat entre l'eau et la roche, c'est l'eau qui gagne, vous voyez, hein. Donc le féminin finalement l'emporte toujours, hein, de ce point de vue, vous voyez. Cela nous surprend parce que nous préférons par exemple l'attitude du chêne à celle du roseau, pour prendre l'exemple de la fable de La Fontaine. Le chêne résiste, si vous voulez, toujours, hein, à la tempête, mais il ne résiste pas toujours. Enfin, je veux dire, il voudrait résister toujours, hein, mais il ne le fait pas. En fait, il peut être déraciné. Tandis que le roseau qui a plié, lui, hein, eh bien, ne sera pas déraciné, vous voyez. Donc, si le chêne incarne l'attitude masculine, on voit où est le meilleur partage. Elle est du côté du roseau, vous voyez. Donc, tout le Tao Te Ching a comme principe stylistique majeur le paradoxe. Comme l'évangile selon Thomas a pour principe stylistique majeur l'antanaclase, c'est-à-dire le miroitement des sens d'une occurrence à l'autre du même mot, hein, ou d'une même expression. Eh bien, ce paradoxe est pourtant vrai, hein. Tout s'érode par le vent, par la pluie, etc., et les plus hautes montagnes seront aplanies. Tandis que la rivière qui creuse son lit, elle finalement triomphe justement de ceux qui voudraient s'affirmer. Donc, je ne sais pas, nous avons sûrement dans nos auditrices, Redouane, des féministes, hein. Bon, eh bien, finalement, disons que Lao Tzu était féministe, même s'il pensait qu'il y avait un principe masculin et féminin qui existait anthropologiquement parlant, et c'était un féministe. D'ailleurs, à un moment, il se compare à un petit enfant qui tète encore sa mère, vous voyez, donc il préfère le mou plutôt que le dur, et ça aussi c'est vrai, hein. Si vous faites tomber un petit bébé, il ne se cassera pas, mais si un vieillard tombe, il va se casser, mettons, le col du fémur, vous voyez, hein, parce que lui, il est, comme on dit en grec, scléros, ou sclérosé, si vous voulez, bon, dur, hein. Donc c'est le mou qui triomphe du dur. Le caoutchouc, par exemple, ne se casse pas, vous voyez, hein. Donc voilà tout le Tao Te Ching. Et moi, j'aime beaucoup ce texte qui est très court, une cinquantaine de pages, une suite de maximes qui définit le taoïsme. Alors le taoïsme, c'est une des deux sagesses chinoises. Le taoïsme, c'est plutôt un individualisme un peu anarchisant. L'autre sagesse, c'est le confucianisme, qui incarne pour les Chinois la façon de se comporter pour que la société fonctionne, si vous voulez. Mais c'est deux pôles par quoi l'âme chinoise, justement, est constituée. Alors, quand vous irez en Chine, Redouane, vous me direz après si vous avez eu plus de taoïsme que de confucianisme. Je ne sais pas. C'est évident que C'est un pays fascinant, mais peut-être que moi je l'imagine à la lumière des textes, et peut-être que du fait du capitalisme qui y triomphe, et de la pollution, etc., tout ce que je dis serait peut-être un peu
Il y a toujours un terreau des civilisations,
penser, oui.
Oui, qui est là, qui influence de manière inconsciente, peut-être. Non, je pense pas que vous soyez... À côté du sujet.
Oui, que je serais déçu si j'allais justement dans ces pays d'Extrême-Orient, comme le Japon aussi, qui me fascine par son esthétique, par ses estampes, par son goût plastique, etc. Mais peut-être ce Japon me décevrait, hein, comme on le voit par exemple dans le film Lost in Translation, hein, c'est-à-dire perdu dans la traduction, hein, de Sofia Coppola, hein, ces deux Occidentaux qui sont à Tokyo, ils sont perdus parce que ils avaient une certaine vision du Japon, et la traduction, c'est quoi? C'est les néons, c'est les buildings modernes.
C'est ça qui est assez surprenant dans ces civilisations, c'est l'ancien jouxte le moderne, sachant que l'ancien n'est pas, ne fait pas partie du passé, mais reste ancré, la tradition reste toujours d'actualité.
Ah, tout à fait.
On est là dans vraiment une sorte de sentiment qu'on est dans vraiment les deux extrêmes, et les deux extrêmes en fait se nourrissent l'un l'autre.
Ben, je voudrais le croire de toutes mes forces, hein. Si j'allais au Japon, est-ce que je verrais l'univers des films d'Ozu, par exemple, qui me fascine? Je n'en sais rien, hein. Peut-être. C'est en tout cas une expérience à essayer. Alors j'ai choisi comme deuxième pause musicale la chanson de Jean Ferrat, « La femme est l'avenir de l'homme », Ferrat citant le poète Aragon.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Voilà, nous arrivons à la troisième et dernière partie de notre émission avec cette affirmation donc de Ferrat, la femme est l'avenir de l'homme.
À partir d'un texte d'Aragon, d'une expression d'Aragon. Oui, voilà, je pense que hommes et femmes doivent se réconcilier, si tant est qu'ils ont été ennemis, hein, et que finalement ils créent une espèce de... Alors, pourquoi pas une androgynie ? Alors, l'androgynie, toutes les cultures sont hantées par l'androgynie, et d'autant plus que l'androgynie est refoulée lorsque les mœurs régnantes séparent radicalement les hommes et les femmes, comme il se voit actuellement dans certaines cultures. Bon, et alors, j'ai déjà... plus haut dans une émission précédente parler de l'enfant. Pourquoi la fascination est-elle éprouvée vis-à-vis de l'enfant? Eh bien, c'est parce que la voix de l'enfant est celle d'un ange. Avant la mue, elle n'est pas sexuée. Et les anges, on le sait, n'ont pas de sexe. Hein. Les castrats, naguère, aujourd'hui, ont disparu. Hein. Bon, mais il suffit d'écouter encore la voix des hautes contres ou des contre-ténors qui ont pris le relais. Hein. Eh bien, ces voix-là ont une pureté que n'a pas la voix féminine, qui est à côté plus sensuelle, véritablement. Ce sont des voix séraphiques qui nous transportent en paradis. On est toujours hanté par l'androgynie. D'ailleurs, certains chanteurs pop, comme David Bowie, etc., avaient justement cette voix au perché, une voix de contre-ténor, en quelque sorte. C'est fascinant, hein, parce que la culture traditionnelle sépare les hommes et les femmes de façon radicale. Alors, il y a une vérité subtile dans la phrase évangélique, hein, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. C'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 12. Hein. Et d'ailleurs, Redouane, la biologie moderne vérifie le début de la sentence de Matthieu, puisqu'au tout début de sa vie, l'embryon est androgyne. Hein. Ce n'est qu'après qu'apparaissent les différences sexuelles, si vous voulez. Hein. Alors bien sûr, il faut prendre eunuque, le eunuque de Matthieu, dans son sens symbolique, celui qui a dépassé la malédiction du sexe, vous voyez. Parce que sinon, l'utilisation de ce passage pourrait être tragique. Je pense au malheureux cas d'Origène, par exemple, qui, nous dit-on, se châtera effectivement après la lecture de ce passage de Matthieu, vous voyez. Hein. Bon, alors, il se serait repenti ensuite, mais trop tard, de l'avoir fait, et d'avoir pris littéralement un texte qu'il fallait lire symboliquement, bien sûr. Hein. Bon. Alors, cette réunion du masculin et du féminin est résumée dans une autre sentence évangélique, je la lis, « Car à la résurrection, les hommes ne prennent point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. » C'est toujours évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 30, vous voyez. On dit que les anges n'ont pas de sexe. Alors je sais bien qu'à Byzance, on a disputé longtemps sur le sexe des anges, d'où de là l'expression de dispute byzantine, si vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que, bon, traditionnellement, ils sont à la fois mâles et femelles. Et alors, quant à l'évangile selon Thomas, dont j'ai déjà parlé, hein, le dernier logion, le logion numéro 114 de cet évangile nous dit que toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. Alors je dirais qu'il faut souhaiter, nous les hommes, d'être un peu moins masculins et vous les femmes d'être un peu moins féminines, si vous voulez. Hein. Voilà, pour essayer de réaliser non pas, alors symboliquement, hein, cette androgynie, plutôt que de se cantonner dans tel ou tel sexe. Vous savez, par exemple, j'aime beaucoup des films comme Victor Victoria de Blake Edwards, hein. Ou bien Tootsie, hein, de Sidney Pollack avec, vous connaissez Redouane ce film, hein, ce sont des films où l'on voit justement un homme déguisé en femme, Dustin Hoffman, hein, bon, se déguise en femme, mais comment dire, ce sont des films qui ouvrent des abîmes pour nous. Moi, ça m'impressionne, si vous voulez. Attention, ce n'est pas le rire gras devant des travestis, ce n'est pas la cage aux folles, si vous voulez, ces films. Hein. Ce sont des films qui font réfléchir, justement, sur cette androgynie qui hante toutes les cultures. Alors, j'ai choisi, comme dernière musique, une chanson de Julien Clerc, qui s'appelle « Femme, je vous aime », dont vous voyez aujourd'hui, Redouane, l'émission est féministe. Hein. Bon, j'espère que les auditrices m'en seront gré. Hein. C'est une très belle chanson, qui a quelques années, mais qu'on écoute toujours avec plaisir. « Femme, je vous aime ».
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure. Que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Si drôle sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Parfois elles le veulent, oui, mais si seul, oui, mais si seul.
arrive vraiment aux extrêmes du temps qui nous est imparti. Juste une petite remarque sur ce dernier choix, Michel.
Oui, alors est-ce que c'est une chanson kitsch ou bien est-ce que c'est une chanson profonde? Je réserve la réflexion pour une émission ultérieure, hein. Les ambiguïtés du kitsch. Voilà, quelque chose qui peut faire sourire, mais qui peut aussi faire réfléchir.
Merci Michel, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer toujours jusqu'à la fin de Méandre de l'amour, et en attendant portez-vous bien.
Au revoir à tous.